Les Canuts, deuxième partie, chapitre 11. Il y avait 5 jours que Marius demeurait enfermé. Il s'était remis au travail et s'y acharnait, répondant à peine aux paroles de Simon et de Zabée, qui s'étonnaient de cette nouvelle ardeur. Il avait écrit à Rose pour lui annoncer sa détermination formelle de ne plus la voir. Les motifs, il ne pouvait les lui donner. Elle les connaîtrait plus tard. Il avait mis dans sa lettre toute sa tendresse, toutes ses délicatesses. Et, sur l'adieu final qu'il adressait à la petite ouvrière, en la suppliant de ne pas chercher à le revoir et de l'oublier, il avait laissé tomber une larme brûlante. À cette lettre, qu'il avait fait porter par un commissionnaire, il avait joint une petite boîte contenant un peu d'argent et un médaillon. C'était son dernier cadeau. Maintenant, après le souper, quand Zabée était remonté dans sa mansarde et que, du dehors, arrivaient les rumeurs du quartier, Marius tirait le verrou et s'absorbait dans la lecture d'un vieux volume du Contrat social. La langue passionnée de Rousseau l'entraînait, ses sophismes le séduisaient, ses utopies l'enthousiasmaient. Dans son exaltation d'esprit, chaque fois qu'il refermait le livre, Marius se confirmait dans sa résolution de se consacrer à la défense de la liberté. Le cœur débordant de passion inassouvie, il se prenait d'un immense amour pour le peuple. Il rêvait de sacrifices, d'héroïsme sans bornes, de sang versé pour l'idée pure de l'humanité. Quand le silence s'était fait au dehors, et que le quartier dormait, alors il descendait, se glissait le long des maisons closes et allait errer une heure du côté des tapis, seul avec ses pensées. La tiède haleine de la nuit l'emportait dans des régions sereines. Il n'était plus le Marius des plaisirs vulgaires. Il devenait apôtre. Et si le souvenir de Rose se représentait à son esprit, il l'éloignait doucement, avec un regard de compassion, vers ce passé funeste qui avait failli entraver son essor. Mais plus il lisait les éloquentes pages du contrat, plus il sentait son ignorance, plus il éprouvait le besoin de compléter son instruction, de faire, en quelque sorte, son éducation sociale et de se préparer à la mission qu'il voulait remplir. Il avait songé au père Bouvet et résolu d'aller, un dimanche matin, lui demander conseil et le prier de lui prêter des livres. L'ancien instituteur demeurait rue Tolosan, au deuxième étage, presque en face du cabaret Bresner. Il vivait seul, parmi ses bouquins, des petites économies amassées dans sa longue carrière et du produit de quelques leçons d'écriture et de comptabilité. Quand Marius entra dans la haute pièce poudreuse, où s'empilaient des in-quarto sur tous les meubles et au long des murs, le père Bouvet poussa une exclamation. « Marius, lui, on ne le voyait plus. D'où sortait-il? Et le père Jacquemin était-il mieux? Le pauvre homme. » Marius répondit. Son bonnet de soie noire enfoncé jusqu'aux oreilles, de vieilles savates aux pieds, le vieux avait déjà endossé la longue lévite marron qu'on lui avait toujours vue. Tandis que Marius parlait, il lui indiqua une vieille chaise bancale et à demi dépaillée, la seule libre. Toutes les autres, encombrées de livres et de paperasses, de vêtements, d'ustensiles de ménage. C'était un étrange désordre. Ça et là, des bouteilles et des assiettes, avec des croûtons de pain et des débris de légumes. De la poussière partout, une odeur de vieilles choses, l'abandon et la décrépitude. « Allons, va-t'en, Robespierre !» nasilla le père Bouvet. Il allongea une croquignole de ses doigts osseux sur le nez d'un vieux chat gris qui lui grimpait aux jambes, et s'asseyant sur le pied de son lit,
« Ah, ça, qu'est-ce qui t'amène, mon garçon ?»
Marius lui fit part de ses projets d'études et lui demanda s'il lui permettrait d'emporter quelques livres. Chez les ouvriers, il n'y avait pas de bibliothèque.
« Suffit, suffit, c'est avec plaisir. Je sais que tu en as soin. Et puis, moi, j'aime les jeunes gens qui cherchent à s'instruire. Malheureusement, ils sont trop rares. On ne lit plus, on est ignorant aujourd'hui. On n'a plus des idées, mais des appétits. Comment se sont formés les grands esprits qui ont préparé la Révolution ? Par la lecture, par l'étude. À cette grande époque, on estimait les lettres par-dessus tout. Maintenant, on ne voit plus que l'or. On méprise les écrits des grands philosophes. On les jette au panier. Tiens !
Ajouta-t-il, se levant et prenant un livre sur une chaise.
« Regarde-moi cette édition de Diderot. Lettre sur les aveugles, à l'usage de ceux qui voient. Je l'ai eue pour 7 sous. 7 sous. Entends-tu ? On ne lit plus ces œuvres superbes. On les délaisse pour des fadaises.
Je ne m'étonne pas que le peuple soit si docile aux joues.
Il ne se nourrit que de pain. » « Qu'as-tu lu, toi, ces temps-ci ? »
« J'ai lu et relu le contrat social. »«
Bravo ! Et tu comprends Jean-Jacques, toi ? » Ce génie qui s'est efforcé d'émouvoir et d'épurer les âmes par le développement du sentiment moral, qui a attaqué les vices de la société et rappelé l'homme à la nature, qui, le premier, a proclamé le principe de la souveraineté du peuple. « Relis souvent le contrat, petit. C'était l'évangile des montagnards. C'est géant. Voyons, que veux-tu que je te prête ?»
Marius ne savait pas. Il avait peu lu jusqu'à présent et venait justement demander conseil.
« Veux-tu le livre de l'esprit d'Helvétius ? Le système de la nature du baron d'Holbach ? Ou l'histoire naturelle de l'âme de Lamétrie ? J'ai encore l'esquisse des progrès de l'esprit humain, de Condorcet.
Le discours sur l'inégalité des conditions, la nouvelle Héloïse,
l'Émile, de Rousseau, l'essai sur le mérite et la vertu, de Diderot, les ruines, la noix naturelle, de Volney.
Le vieil instituteur fouillait parmi ses bouquins, les maniait avec amour, à genoux par terre, devant eux, comme un avare devant son trésor.
« Tiens, j'ai une affaire, » reprit-il en se relevant. « Tu vas me lire d'abord les lettres philosophiques et le discours sur l'homme. »
Et il frappait les deux livres l'un contre l'autre pour en chasser la poussière. « De quel auteur ?»«
Ah, c'est du maître, c'est du grand Voltaire !»
s'exclama le vieux, regardant le buste en plâtre du philosophe, juché sur une tablette au-dessus de la cheminée.
« Nous sommes nés trop tard, mon fils. Nous n'en reverrons plus de cette taille. Vois cette tête fine, spirituelle !»
Marius prit les livres. Puis, après une hésitation, parla des sollicitations de Nerbollier pour le décider à se faire affilier aux droits de l'homme. Mais il ne savait quels engagements il contracterait, si cette société poursuivait un but désintéressé.
« Mon garçon, » reprit le père Bouvet, « ne dis jamais de mal de la Société des droits de l'homme. Si tu y entrais, ce serait mieux. Ce sont des descendants de nos glorieux pères de 92. Ils ont l'amour pur de la liberté, la haine des tyrans. Ce sont des apôtres. Si tu as le cœur haut, l'âme forte, entreprends la lutte pour la République. »
Longtemps, le vieux révolutionnaire continua de sa voix nasillarde et saccadée. Tout à coup, apercevant de larges rayons de soleil où dansaient des nuages de poussière,
« Ah ça, quelle heure est-il donc ? »
« 9h20, » répondit Marius consultant sa montre.
« Ah, diable ! Pardon, mon garçon, si je te mets à la porte. Mais j'ai une leçon d'écriture à donner, rue de l'Annonciade. Ah, il faut gagner sa vie, hein, tout vieux qu'on est. »
Vite, il chaussa ses souliers, échangea son bonnet contre son chapeau à longs poils, prit sa canne et, après avoir fermé la porte à double tour, descendit avec Marius. Dans la rue, il lui tendit la main.
« Allons, bon courage. C'est aux jeunes d'entreprendre ce que nous n'avons pu faire. »
Et il s'éloigna en trottinant. Marius rentra chez lui, prit son bâton et se mit en route pour Limoneste. Il trouva son père à peu près dans l'état où il l'avait laissé à la dernière fois. Barou et sa femme lui racontèrent les bizarreries du malade, ses crises, son genre de vie toujours le même, les visites du médecin. Puis, ils lui firent promettre de revenir le dimanche suivant, avec les dames des négrices. Le père Jacquemin serait si content de les voir. Il ne repartit qu'à la nuit tombante, l'esprit reposé par le grand air, le cœur plus tranquille. L'idée lui vint, en remontant son escalier, d'entrer chez ses voisines pour leur donner des nouvelles de son père. Depuis longtemps, il ne les voyait que le moins souvent possible. La mère des négrices, surprise de sa visite, l'accueillit avec réserve. Elle lui apprit que des amis étaient venus le demander en son absence. Lorsqu'il lui eut fait part de son projet de l'emmener à Limoneste, le dimanche suivant, avec Louise et Zabé, elle retrouva son bon sourire. Louise, qui se taisait, ressentit une émotion très vive. Elle avait tant souffert de tout ce qu'on lui avait dit sur le compte de Marius, qu'elle cherchait à se faire illusion. Elle se plut à considérer cette démarche comme la preuve d'un retour vers elle. Quand il sortit, elle l'éclaira jusqu'à sa porte et le quitta en lui tendant la main. Avant de se coucher, Marius, tout à son rêve social, relut la Déclaration des droits de l'homme. Il n'avait plus son père pour le guider, et ne se demandait pas si, dans son gros bon sens d'honnête homme, il n'eût point blâmé ses projets. Le lendemain, il alla voir Nerbollier. Deux jours après, il était présenté au comité et reçu membre des droits de l'homme.